Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De plus en plus de victimes de violences sexuelles demandent réparation à l'enseignement catholique en hausse de 40%. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Dans le sillage de règlement de compte en série ces derniers temps, Emmanuel Macron convoque une réunion sur le narcotrafic ce matin à l'Elysée. Et l'ONU qui valide le déploiement d'une force internationale à Gaza.
L'importante vague de demandes de réparation de victimes de l'enseignement catholique.
Après l'affaire Betaram et des scandales qui ont suivi dans plusieurs établissements catholiques, les demandes de réparation dans l'église explosent. En hausse de 40% entre janvier et novembre par rapport à la même période l'an dernier. C'est un chiffre que vous révèle ce matin RMC. Un fonds d'indemnisation mis en place par l'église pour ces cas bien souvent prescrits. Louis Salé.
Victime de viol à 15 ans, Alain repense à ses années d'internat dans un lycée de région parisienne, les yeux humides.
J'ai subi des actes sexuels non consentis de la part d'un prêtre et d'un professeur de lettres de cette même institution.
Alain vient tout juste d'être indemnisé par l'église.
Ça fait un bien fou que l'institution dise « oui, nous avons failli ».
Depuis l'affaire Betaram, de plus en plus d'anciens élèves de l'enseignement catholique comme Alain demandent réparation. Par rapport à l'an dernier, les requêtes ont augmenté de 40%. Marie Dorin de Vaucresson préside l'une des deux instances qui accompagne les victimes de pédocriminalité dans l'église, l'INIR.
Ça a réactivé très clairement la libération de la parole. C'est toujours une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est bénéfique pour les personnes qui ressentent le besoin de reconnaissance et d'être accompagnées dans une démarche restaurative.
Ces chiffres tiennent seulement compte des victimes de prêtres et de directeurs d'établissements. Les demandes liées à des personnels non religieux comme les professeurs et les surveillants sont jugés non recevables.
Une réunion ce matin à l'Elysée, 10h, point d'étape sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Il sera notamment question de la situation à Marseille après la mort du frère du militant Amine Kessassi la semaine dernière, farouche opposant aux trafiquants. Et autour de la table ce matin, Cyprien Pézeril, il y aura des membres du gouvernement, mais aussi des hauts placés en matière de narcotrafic.
Oui, ce ne sont pas seulement le Premier ministre et une partie du gouvernement qu'Emmanuel Macron réunit, mais aussi les directeurs généraux de la police, des douanes, ainsi que la future chef du parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, des magistrats spécialisés pour suivre l'argent sale du narcotrafic et cibler les criminels au portefeuille. Ce nouveau parquet, il est créé par la loi narcotrafic et c'est justement sa mise en œuvre et sa montée en puissance qui sont à l'ordre du jour, avec un point spécifique sur Marseille. La préfète de police des Bouches-du-Rhône participe aussi à cette réunion au sommet. Alors que les drames se multiplient, le chef de l'État suit cela de très près, assure l'Élysée. La lutte contre le narcotrafic doit enfin réellement commencer, presse Jordan Bardella, le patron du RN. On gagne des batailles, mais on reste en guerre, assure de son côté RMC, le ministère de l'Intérieur.
Les ennuis se poursuivent au musée du Louvre, contraint de fermer l'une de ses galeries au public en raison d'une fragilité de l'édifice. Il s'agit de la galerie Campana, abritant 9 salles dédiées à la céramique grecque antique. Des investigations doivent être menées afin d'étudier la qualité des planchers. Nouveau drame avec, en toile de fond peut-être, le protoxyde d'azote à Roubaix. Une jeune femme de 17 ans a été retrouvée morte dimanche à son domicile. Sur place, forces de l'ordre et secours ont retrouvé Cassandre Brault des bonbonnes de gaz hilarant en très grande quantité.
Oui, les policiers ont retrouvé près d'une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote dans l'appartement de cette jeune femme. Des analyses médico-légales sont en cours pour déterminer l'origine exacte de son décès, selon le parquet. Mais ce que l'on sait, c'est que la victime était connue pour consommer du protoxyde d'azote régulièrement, d'après les informations de BFM TV. Pour rappel, cette substance est de plus en plus détournée par les jeunes à des fins récréatives. C'est une voisine qui a donné l'alerte dimanche, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de la jeune femme de 17 ans. En arrivant sur les lieux, les policiers et les secours ont découvert son corps sans vie. L'enquête a été confiée au commissariat de Roubaix.
Et juste après le journal de Thibault, un médecin addictologue sera en direct avec nous. Il a lancé la première consultation pour les jeunes accros à ce gaz de plus en plus répandu. Venez donc l'interpeller et témoigner au 32-16. Est-ce que vous consommez vous-même du protoxyde d'azote? Est-ce qu'on en consomme autour de vous? Vos questions et vos témoignages au 32-16.
Autre invité, 8h30 sur RMC, BFM TV, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. À l'occasion des maires qui se réunissent aujourd'hui en congrès, 107e édition à Paris, à 4 mois des élections municipales, 12 000 élus vont se retrouver pour des ateliers, des débats aussi. Et dans toutes les têtes, Hélène Terzian, le contexte budgétaire tendu.
Oui, avec un slogan, liberté, qui sonne comme un cri d'alarme. Le refrain des maires de France est toujours le même. Ils veulent moins de normes, plus d'autonomie, notamment budgétaire. André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, dénonce même une purge massive, vent debout contre l'effort de 4,7 milliards d'euros demandé aux collectivités pour l'an prochain. Avec cette pression budgétaire, le Premier ministre se sait attendu au tournant. Sébastien Lecornu viendra d'ailleurs clôturer ce congrès avec un discours scruté, notamment sur le chantier de la décentralisation qu'il appelle de ses voeux. Une dizaine de ministres défileront toute la semaine. Il faut qu'on encourage l'expérimentation, plaide l'un d'eux. On veut laisser du pouvoir aux maires, dit-il, qui ont raison de le demander.
Les antibiotiques encore trop souvent automatiques après des années de baisse, prescription et consommation sont repartis à la hausse l'an dernier à des niveaux d'avant Covid, nous dit une étude Santé publique France qui rappelle que la prise de ces médicaments n'est jamais anecdotique. Et si vous allez chez le docteur aujourd'hui, pensez à prendre votre smartphone. La carte vitale est désormais disponible de manière dématérialisée depuis une application dédiée. Le plan de paix de Donald Trump pour Gaza soutenu et voté cette nuit à l'ONU. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. 13 des 15 membres du Conseil de sécurité, dont la France, se sont donc prononcés en faveur de cette résolution américaine, les États-Unis, qui ont fait pression pour obtenir l'aval de l'ONU.
Oui, c'est une victoire pour Donald Trump. Son plan pour Gaza a été largement adopté par le Conseil de sécurité. Concrètement, la résolution votée par l'ONU prévoit trois choses. D'abord, la mise en place d'une force internationale. Elle aura notamment pour mission de désarmer le Hamas. Pour le moment, les pays ne se bousculent pas pour envoyer des soldats, mais Washington espère que cette résolution, qui donne un cadre légal, va inciter désormais plus de monde à s'engager. Le deuxième point, c'est la mise en place de ce fameux comité pour la paix, cet organisme présidé par Trump lui-même. Il sera chargé de gérer l'enclave pendant 2 ans. L'un des objectifs, c'est de lancer la reconstruction avant finalement de remettre les clés aux Palestiniens. Et puis, et c'est un point important, le texte prévoit à terme la possibilité d'un État palestinien, à condition, précise la résolution, que l'autorité palestinienne, entre-temps, se soit réformée.
Antoine Hollard à Washington pour RMC. Aux États-Unis, toujours la sentence est tombée pour Victor Wembanyama. Blessé vendredi au mollet, il souffre d'une élongation. Le basketteur français des San Antonio Spurs sera absent plusieurs semaines. L'an dernier, c'est une blessure à l'épaule qui l'avait éloigné des parquets pendant 8 mois. Et puis le Brésil et la Colombie au programme des Bleus en mars prochain. 2 matchs amicaux pour l'équipe de France avant le mondial nord-américain en présence de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ils ont validé leur billet hier soir pour la Coupe du Monde qui sera à vivre sur RMC, radio officielle de l'événement.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Attention, danger, le protoxyde d'azote tue. Une trentaine de bonbonnes de ce gaz ont été retrouvées dans l'appartement d'une jeune femme, 17 ans, morte dimanche à Roubaix, dans le Nord. Bonjour docteur Christophe Rioux. Vous êtes médecin addictologue à Lyon. Les jeunes sont de plus en plus accros à ce gaz utilisé à l'origine pour la cuisine. Un gaz soi-disant hilarant, mais qui peut avoir des conséquences irréversibles. C'est ce que vous nous dites dans un instant. Vos conseils très précis pour nous accompagner et accompagner ceux qui nous écoutent. Et puis vos appels, vous tous, est-ce que vous en consommez? Est-ce qu'on en consomme autour de vous? Avez-vous des demandes à formuler au docteur? Je vous attends au 3216.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous nous écoutez à la radio sur RMC. Vous nous regardez à la télévision, Canal 23, RMC Story. Et on va parler de ce nouveau drame. Une adolescente de 17 ans retrouvée morte chez elle, dans son appartement. Une trentaine de bonbonnes de protoxyde d'azote. Bonjour docteur Christophe Rioux. Merci d'avoir accepté de nous accompagner ce matin pour mieux comprendre. Vous êtes médecin, addictologue aux Hospices Civils de Lyon. L'autopsie est en cours pour déterminer l'origine de la mort de cette jeune femme. Mais l'hypothèse du gaz soi-disant hilarant de cette consommation, elle est plausible pour vous? C'est-à-dire que ça peut entraîner la mort?
Toute pathologie addictive, une des conséquences parfois dramatiques de consommation addictive, c'est des consommations mortelles. Hein, l'héroïne, c'est bien connu, l'alcool aussi. Si on se rappelle de Amy Winehouse, elle est décédée d'une surconsommation massive. Et dans le proto, on est en train de découvrir ça. Le proto, c'est un psychoactif, donc c'est pour ça qu'on en prend. C'est aussi un neurotoxique, c'est pour ça que ça abîme les neurones, on pourra en parler. Mais c'est aussi ce qu'on appelle un thrombotique, c'est-à-dire que ça rend le sang trop épais. Et le sang trop épais, ça favorise des pathologies cardiovasculaires ou artérielles, un AVC, un infarctus, des phlébites. Et en plus, ce gaz est consommé, inhalé, sans oxygène. Donc si vous rajoutez le manque d'oxygène, vous avez une forme de combo gagnant, c'est-à-dire que le sang trop épais, le risque d'infarctus, vous faites un micro-infarctus, et en plus vous avez un manque d'oxygène, ben, vous avez le combo gagnant pour faire un arrêt cardio-respiratoire.
C'est terrible, effectivement, vous nous en faites un tableau très précis et je suis extrêmement heureuse que l'on puisse entendre vos mots, parce que jusqu'à présent, on parle du protoxyde d'azote, on parle des bonbonnes, on dit oui, mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on avait dans les fonds des tiroirs, des cuisines de nos grands-mères pour fabriquer de la chantilly. Donc, globalement, on se dit ça doit être à peu près inoffensif. Non, votre description, elle en est terrible. Je voudrais, avant que vous puissiez nous aider aussi à y voir plus clair sur la manière dont on peut éviter d'y être accro, comme vous dites, puisque vous accompagnez justement des jeunes qui doivent s'en sortir. Je voudrais qu'on puisse donner aussi la parole à Yann, parce que Yann nous a appelé au 3216 et Yann est policier dans l'Oise. Bonjour Yann. Vous vouliez témoigner de ce que vous voyez au quotidien. Désormais, le protoxyde d'azote, ça n'est pas quelque chose de marginal. Vous le constatez dans votre pratique de policier au quotidien.
Oui, effectivement. Juste précision, je ne suis pas policier dans l'Oise, je suis policier en Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Mais oui, effectivement, le protoxyde d'azote est devenu quelque chose d'extrêmement banal chez les jeunes. Et
ouais.
C'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, moi je suis en brigade de nuit, j'y suis confronté toutes les nuits. Et d'autant plus quand j'y suis confronté sur des gens qui conduisent sous protoxyde d'azote.
Ça donne quoi? Comment vous le constatez? Comment vous repérez?
Déjà, on le repère parce que ils ne se cachent même plus, sachant que ce n'est pas une infraction qu'on peut réprimander actuellement. Ils conduisent avec ils consomment le protoxyde d'azote dans des ballons.
Mmh.
Et ils mettent du gaz dedans et ils inhalent. Et ils conduisent avec le ballon en bouche, en fait. Donc, on n'a pas énormément à les repérer, étant donné qu'ils conduisent avec un énorme ballon de baudruche dans la bouche.
Ah oui. Donc, en fait, vous les repérez, vous voyez ça. Et ensuite, vous pouvez faire quoi, vous?
Concrètement, grand chose, hein. On les contrôle, étant donné qu'il n'y a pour l'instant pas d'infraction qui réprimande la consommation au volant, on leur demande de bien vouloir déjà vider le ballon lors du contrôle, mais ça s'arrête là. Après, on peut réprimander les infractions qu'ils auront commises au code de la route. Mmh. Il m'est déjà arrivé pour des grosses infractions de relever la mise en danger de la vie d'autrui pour une personne qui avait roulé en sens inverse pendant plus de 2 km. Mais à part ça...
Mais ça veut dire que c'est pas le protoxyde lui-même, c'est effectivement ces conséquences que vous pouvez à peu près contrôler.
Yann, voilà, restez avec nous.
Restez avec nous, que le docteur puisse lui-même nous expliquer. Docteur Christophe Rioux, d'abord, quels sont les effets? Pourquoi en consommer et pourquoi effectivement cette illusion d'être dans un esprit hilarant?
C'est comme toute consommation de psychoactifs, hein. On apprécie les vertus euphorisantes, calmantes, sédatives, qu'on appelle psychodysleptiques, c'est-à-dire qui fait rêver, qui fait planer, qui fait imaginer des choses. C'est pour rire, c'est pour être cool, c'est pour soigner son mal-être. Les usages sont différents, hein. C'est comme l'alcool. L'alcool, certains en prennent pour se désinhiber, et puis certaines personnes en prennent pour être moins mal. Hein.
Est-ce que ça crée une addiction? C'est-à-dire, est-ce que c'est addictif soi?
Alors, le proto, c'est un peu compliqué parce que on est en train de découvrir l'émergence de ce produit dans une population. C'est-à-dire que le protoxyde, lorsqu'il a été analysé, c'était d'abord utilisé en anesthésie, c'est ce qu'on appelle le méopa. Hein, c'est lorsqu'on met ça à un petit enfant pour le suturer, ça dure 3 minutes, ça c'est pas dangereux.
C'est le petit masque qu'on met sur le visage d'un enfant quand on doit lui faire des points de suture.
C'est pas pareil, c'est du protoxyde et de l'oxygène, et ça c'est pas dangereux. Ça a été testé en anesthésie, il y a un recul énorme. La différence, c'est que là on est sur des expositions absolument supermassives. C'est des consommateurs qui se mettent sous protoxyde toutes les nuits pendant plusieurs heures, ou le vendredi et le samedi soir, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Et donc ce sont des expositions massives et répétées. Donc ça n'a rien à voir. Et donc l'augmentation du produit chez certaines personnes fait que ça développe effectivement des addictions. Et on le découvre pour plein de produits, hein. Un consommateur d'alcool, au début, il en prend un peu, et puis ensuite, il augmente.
Et ensuite, il devient addict, il devient accro. Est-ce qu'il faut interdire, docteur?
Eh ben, écoutez, c'est une question intéressante. Je n'ai probablement pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est que toutes les manœuvres de répression très, très fortes font qu'il existe des circuits parallèles. Il suffit de voir dans l'histoire, quand vous vous penchez un peu sur la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920, vous voyez que ça a développé tout un circuit parallèle.
Oui, c'est l'éternelle question de est-ce que interdire ne crée pas ce circuit parallèle. Mais sur le fond, vous diriez, il faut absolument empêcher au minimum, c'est-à-dire lutter d'une manière ou d'une autre pour que cette consommation ne s'installe pas chez les jeunes.
Eh bien, ce que je pense, c'est qu'il faut sans doute reclasser cette molécule de manière différente pour que effectivement il y ait pour les consommateurs une conséquence délétère de la consommation qui puisse créer un problème et se dire j'ai un problème avec ce produit.
Voilà, le réaliser.
On sait bien que quand il y a ça, ça pousse les gens à rentrer en soins. J'ai perdu mon permis, donc je viens vous voir. Je me suis fait arrêter, je viens vous voir. Et donc pour le proto, il n'y a pas ça.
Pour le proto, effectivement, s'il y avait cette interdiction, et Yann, votre témoignage de ce point de vue-là est particulièrement précieux, le fait qu'en soi, ce ne soit pas un motif, effectivement, de retrait de permis ou d'amende, ça, on l'a bien compris, docteur, ça aurait pu être utile. Merci à Yann pour son témoignage, policier en Seine-Saint-Denis, et merci à vous, docteur Christophe Rioux, médecin addictologue à Lyon, 7h20 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
La France a perdu 40 000 fermes en 3 ans. Est-ce que c'est la vraie fin des paysans, Arthur ?
Pas encore, mais c'est un risque. Hein. Depuis un siècle et demi, leur nombre baisse constamment. Et pourtant, à une époque, les paysans, c'était le cœur de la France.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes tout pile sur RMC. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et on va remonter le temps comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, l'association Terre de Liens, qui veut préserver les terres agricoles, a révélé ce chiffre très inquiétant. En 3 ans, il y a 40 000 fermes de petite taille qui ont disparu. Pour vous, il faut réagir.
Oui, puisque ce chiffre confirme une tendance, la disparition des petites exploitations depuis 1988. 90% des départements ont perdu plus de la moitié de leurs fermes. Évidemment, ça met des agriculteurs au chômage, mais c'est aussi un bouleversement économique puisque ça favorise la concentration des grosses exploitations.
Les fermiers ont joué un rôle très important dans notre économie.
Oui, et c'était même une classe sociale en soi. Hein. Entre les ouvriers et la haute société, il y avait les fermiers. Et à partir du XVIIe siècle, ils ont considérablement agrandi leurs terres. Les exploitations pouvaient aller jusqu'à 100 hectares, c'est énorme. Riches, puissants, c'est eux qui nourrissaient la France et ils avaient d'ailleurs un nom, on les appelait les grands fermiers, hein, ça fait puissant. Donc vous voyez, la concentration des terres, ça ne date pas d'hier.
Être fermier, à un moment, c'est devenu une mode.
Oui, au XVIIIe siècle, la France se passionne pour l'univers de la ferme, même la reine s'y met. Dans les années 1780, Marie-Antoinette se fait construire des petites fermes dans les jardins du château de Versailles. Il y avait des animaux, des étangs, des chaumières, et elle venait là avec ses copains pour jouer à la ferme, hein, pour traire les vaches, nourrir les cochons, tout ça déguisé en paysanne, c'était follement amusant. Cet endroit, ça s'appelle le hameau de la Reine. Et aujourd'hui, si vous visitez le château de Versailles en famille, eh bien vous pouvez encore le visiter.
Et il y a même des animaux.
Absolument.
Les fermiers ne faisaient pas de politique.
Alors pas vraiment, mais ils vont s'y mettre un petit peu sous la Révolution française. Hein, quand la première Assemblée nationale se réunit en 1789, ils seront 40 sur 1145 députés à siéger. Mais ils vont se retirer très vite pour une raison très simple. Ils devaient retourner à leur champ. La terre n'attend pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les fermiers font en général peu de politique. Ils n'ont pas le temps.
Comment ça va évoluer ?
Alors les fermes continueront évidemment à avoir beaucoup de poids dans notre économie. En 1860, un actif sur deux travaille dans l'agriculture. Et à partir de là, ça va décliner constamment. Avant la Seconde Guerre mondiale, ça ne représentera plus qu'un actif sur quatre. Entre 2010 et 2020, la France a perdu près de 100 000 agriculteurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs donc représentent 1,5% de la population active.
Comment on peut enrayer ce phénomène ?
Eh bien, en suivant les conseils de cette association, Terre de Liens, c'est-à-dire faciliter l'installation de paysans dans les campagnes pour faire revivre ces fameuses petites fermes qui font partie de notre patrimoine, mais pas seulement. Ça nous permet aussi de manger correctement, ce qui n'est pas rien. Mais rien ne pourra se faire sans les municipalités qui doivent préserver des terrains pour ça. Bref, il faut aller contre le sens de l'histoire. C'est toute la difficulté.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et justement, puisque vous parlez des municipalités, c'est un maire que je reçois et Arnaud Demange vient en tirer le portrait.
RMC,
De Manche pirate le face-à-face.
Bonjour Arnaud, vous venez pirater le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Je reçois le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard.
Il fait chaud.
Et oui, Apolline, hier, on recevait Patrick Sébastien et ce matin, on reste dans le thème de la fête avec David Lisnard qui préside aujourd'hui le Congrès des maires de France. Et au Congrès des maires de France, on fait la fête! Parce que le Congrès des maires de France, c'est la réunion de tous les maires et c'est l'équivalent de Noël à Pigalle. Des milliers de maires qui montent en célibataire à Paris pendant 3 jours et qui reviennent... c'est chaud là-bas, hein, du coup. Et ils reviennent la semaine suivante à la mairie.
Monsieur le maire, vous avez fait une note de frais de 500 euros avec une facture du Ladies Paradise.
Oui, absolument. Oui, c'est une boîte de conseils sur la place des femmes dans les agglomérations.
Oui, et Lola, c'est qui?
Mademoiselle Lola est une experte qui sait mettre à nu les problématiques des maires. Faites le virement, posez pas de questions comme ça tout le temps aussi, Martine. Bref, les maires se retrouvent et alors ils parlent de leurs problèmes, de leurs succès, de leurs échecs. Le maire de Roubaix, il rase les murs par exemple, vous voyez.
Voilà.
Et si David Lisnard le chope, il fait « Hep, hop, viens là toi, on t'a vu. T'as vu ce que t'as fait ?» Regarde, on a des photos de ta ville. On a des photos de Roubaix. Hein. Tu donnes une très mauvaise image de la profession, Jean-Charles. T'es exclu, t'es puni.
Mais David, t'es maire de Cannes aussi, c'est de la triche. T'as que des vieux blindés. Je vais avec les cartes que j'ai, merde.
Alors, il y a même les maires des petites villes qui viennent. Il y a le maire de Tougrasse, les deux Glaviaux, qui rencontre celui de Sapine sous les sapins. Il y a le maire de Pignol, la fermière,
évidemment,
qui discute avec celui de Razon, la reine, qui bavarde avec celui de Morlaix, les petits tétons.
Voilà.
Et tous un jour, ils rêvent de diriger des grandes villes. Ils voient Anne Hidalgo, ils font « Oh, c'est la maire de Paris !» Parce que c'est Beyoncé pour eux. Et après, ils vont visiter Paris, puis ça devient Affida Turner pour eux, parce qu'ils voient les résultats. David Lisnard a déclaré « L'État est drogué à la dépense publique. » Autre gros sujet dans l'interview. Et ça, on a vu avec Bruno Le Maire, 3000 milliards de dettes. Il était drogué à la dépense publique. D'ailleurs, comme il est plus ministre de l'économie aujourd'hui, il doit être en manque. Il doit zoner à la colline du crack, Bruno Le Maire, en cherchant de la dépense publique.
« Et lui, je peux sniffer ta carte vitale. Je peux regarder tes remboursements de sécurité sociale sur ton compte Amélie. Vas-y, fais pas ta pute. Allez, vas-y, fais voir tes APL. Allez, si tu veux, je te suce. Non !»
Dites non à la drogue, les enfants. Allez, on va faire la fête avec David Lisnard à 8h30. À tout à l'heure.
Ce sera à 8h30, mais d'ici là,
vous
l'avez entendu,
120 000 euros.
C'est énorme, c'est l'alerte. Il est 7h27. C'est l'alerte et avec ça, vous avez de quoi faire la fête. 120 000 euros. RMC vous offre 120 000 euros et c'est l'heure de les gagner à 7h27. Il y a 100 000 euros pour vous, net d'impôts, et il y a 20 000 euros pour la personne de votre choix. Si quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC. Alors parlez d'RMC autour de vous et puis surtout, inscrivez-vous. Vous avez donc 10 minutes pour envoyer RMC au 732-16. RMC par SMS au 7-32-16. Il est 7h28. On vous offre 120 000 euros jusqu'à 7h38. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
A tout de suite pour la météo du journal. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Plus précisément 7h31 et n'oubliez pas, il vous reste donc 6 minutes pour envoyer RMC au 732-16 et gagner les 120 000 euros. Tout de suite, le journal, Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Décidément, le Louvre n'est pas épargné après le casse du siècle le mois dernier. Voilà que les planchers du musée menacent de s'effondrer. Une galerie a été fermée par précaution. La carte vitale, désormais disponible sur tous nos smartphones. Mode d'emploi dans ce journal. Et puis la note très salée de la dépollution de l'eau. L'UFC Que Choisir alerte, 15% du réseau est concerné et ça se ressent sur la facture des Français.
La série noire continue au Louvre.
Quasiment un mois après le spectaculaire cambriolage du musée, le bâtiment est en proie à un nouveau problème de sécurité, cette fois lié à sa vétusté, à tel point que la direction a pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre l'un de ses espaces les plus prestigieux qui se trouve Lou Garnier, juste à côté de la galerie d'Apollon, victime du casse du siècle.
Il s'agit de la galerie Campana. Elle abrite 9 salles et rassemble des céramiques grecques antiques. Les bureaux de 65 employés situés au deuxième étage seront évacués. La vétusté des bâtiments n'a rien de surprenant pour Élise Muller. Elle est représentante du syndicat Sud Culture et agent de salle au Louvre.
Il y a des éléments qui sont visibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Les toitures qui fuient, des fissures, les canalisations qui rompent, c'est visible dans notre quotidien de travail.
Surtout, elle craint que d'autres galeries ferment à leur tour.
Vraiment, on est extrêmement inquiet. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, le plus grand musée du monde, 300 millions de budget, et on se retrouve à devoir fermer parce qu'il y aurait un risque d'effondrement de plancher. On marche sur la tête et on se demande vraiment mais quelles ont été les priorisations de la direction ces dernières années.
Pour éviter ce qu'elle qualifie de fuite en avant, elle espère une rénovation en urgence des bâtiments.
Une réunion au sommet sur le narcotrafic organisée ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron après les drames qui ont frappé Marseille et Grenoble la semaine dernière. Il sera notamment question de la mise en œuvre de la loi promulguée en juin dernier. Il est 7h33 et c'est une avancée majeure. La carte vitale dématérialisée est désormais accessible à tous les Français après une phase d'expérimentation dans la moitié des départements. Et pour ça, Célestin Bougère, il va falloir une application spécifique.
Oui, dès maintenant, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Carte Vitale. Il suffit d'y inscrire votre numéro de sécurité sociale ou de scanner directement votre petite carte verte. L'application utilise ensuite la reconnaissance faciale pour vous identifier et ce, à chaque utilisation. Une fois passées ces étapes, votre carte vitale apparaît sur votre téléphone. Plus besoin de fouiller dans votre portefeuille. Pour que cela fonctionne, il faut tout de même que votre médecin ou votre pharmacien soit équipé pour lire la carte vitale depuis l'application. La plupart des professionnels de santé le sont, d'après la Caisse d'assurance maladie, qui justifie cette nouveauté par la flexibilité qu'elle apporte à tous. Dans une étude Ipsos BVA, 25% des Français disent avoir déjà eu des difficultés à retrouver leur carte vitale alors qu'ils en avaient besoin en urgence.
Une carte vitale que les Français utilisent de plus en plus pour les antibiotiques, dont les prescriptions remontent en flèche à leur niveau d'avant Covid. On en parle dans le journal de 8h. Il se félicite ce matin. Donald Trump a obtenu gain de cause auprès des Nations Unies qui ont voté hier soir son plan de paix pour Gaza, avec notamment la création d'une force internationale.
7h34 sur RMC, et ce sera une question centrale au Salon des maires de France qui s'ouvre ce matin à Paris, le coût de la dépollution de l'eau.
Un coût qui va exploser dans les prochaines années selon l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs appelle à faire payer les secteurs industriels et agricoles au lieu des collectivités et donc des Français, car la pollution s'étend de plus en plus. Désormais, 15% des réseaux d'eau ne sont plus conformes, notamment dans le Nord, Martin Juré.
Max vit à Arras, dans le Pas-de-Calais. Membre de l'antenne locale de l'UFC Que Choisir, il examine les derniers relevés concernant l'eau de sa commune, peu rassurant.
Joli, hein ? L'eau distribuée présente des concentrations perchlorate élevées. Sa consommation est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois. Des dépassements des valeurs réglementaires en pesticides sont mesurés.
Plus des deux tiers des réseaux d'eau potable de ce département, mais aussi de l'Oise, de l'Aisne et du Nord, sont concernés par des dépassements en pesticides. Cela ne veut pas dire que l'eau est impropre à la consommation, mais que les collectivités doivent payer très cher des installations pour la dépolluer. Des investissements qui vont devoir être supportés par les particuliers. Nicolas Garnier, délégué général de l'association Amorce, accompagne les élus locaux sur cette gestion de l'eau.
À l'échelle du pays, on peut considérer que protéger les captages d'eau potable va représenter à peu près 1,3-1,5 milliard d'euros par an. Si vous augmentez les dépenses du service public de l'eau, votre seule option, c'est d'augmenter le prix de l'eau.
En moyenne, la facture d'eau des ménages a déjà augmenté de 16% depuis 2 ans.
Et ne manquez pas à 7h50, la voix de gauche ce matin, Cécile Duflot, qui reviendra précisément sur cette question de la gestion de l'eau.
Autre sujet à l'ordre du jour au Salon des maires, le sport, avec la présence aujourd'hui de l'ancienne ministre et désormais présidente du Comité national olympique et sportif français, Amélie Oudéa-Castéra, qui va présenter, et RMC vous le dévoile en exclusivité ce matin, son plan dans un contexte budgétaire tendu. Arnaud Valadon.
Parmi les 10 mesures proposées, Amélie Oudéa-Castéra veut garantir l'accès à la pratique sportive en club aux enfants scolarisés. Elle souhaite profiter du temps périscolaire, ce temps d'accueil généralement après l'école à 16h, pour permettre aux élèves de primaire de faire une activité physique. En rapprochant école et associations sportives, la présidente du Comité national olympique et sportif français veut que chaque enfant puisse pouvoir faire du sport sans contrainte financière et sans problème pour accéder à un gymnase en prévoyant le transport depuis l'école. Dans ce pacte sportif territorial, Amélie Oudéa-Castéra appelle les maires à favoriser des actions sportives incluant les seniors et les personnes en situation de handicap. L'ancienne ministre des Sports et des Jeux de Paris 2024 entend sensibiliser les élus à quelques mois des élections municipales, alors que 4 communes françaises sur 10 ont baissé leur budget alloué au sport en 2025.
Et puis place au quart de finale de la Coupe Davis, l'équipe de France affronte la Belgique à partir de 16h.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici notre prono du jour, le favori, c'est le numéro 3, Darling Hurst, l'outsider, c'est le 7, Acqueville.
C'était le journal d'Élise Dangean, il est 7h37 sur RMC. On part à Créteil au 32-16, Créteil nous appelle Mohamed, bonjour Mohamed.
Bonjour.
Comment ça va? Bonjour. Vous êtes agent d'exploitation dans quel domaine?
Dans une usine d'incinération.
Dans une usine d'incinération. Et alors précisément, vous êtes confronté au quotidien aux traces du protoxyde d'azote.
C'est ça. En fait, toutes les bouteilles dont les jeunes profitent, entre guillemets, pour leur soirée, etc., finissent souvent dans les poubelles. Par les éboueurs, etc., etc., où ils n'ont pas en fait d'endroit pour les stocker. Donc eux, ils les jettent dans la poubelle en faisant leur métier, quoi. Mmh. Sauf que chez nous, quand elles arrivent et qu'on les brûle en même temps que les déchets, parce que à travers des tonnes de déchets, c'est impossible de les séparer des déchets, quoi. Mmh. C'est ça. Elles rentrent dans nos fours et quand elles explosent, bah ça fait des dégâts considérables. On a des dépassements de polluants, on a des casses sur nos chaudières, donc ça met les fours à l'arrêt. On peut plus incinérer. On a eu un blessé il n'y a pas longtemps, au mois de juin, qui a été en arrêt de travail pendant 3 mois suite à une explosion.
Ça, c'est dingue. Donc, c'est-à-dire que, Mohamed, honnêtement, on commençait depuis quelques semaines à parler des terribles conséquences du protoxyde d'azote. On en a parlé évidemment aussi avec la mort de Matisse, hein, je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure. Mais Matisse qui a été tué par un chauffard qui fuyait un contrôle de police et qui, semble-t-il, était lui-même sous protoxyde d'azote. On en parle évidemment avec la mort de cette jeune femme à Roubaix, mais on ne parle pas de cette conséquence-là. En effet, vous avez raison, de ces petites... Donc, c'est les petites bonbonnes en métal qui se retrouvent donc à exploser dans vos incinérateurs.
Voilà, on a commencé par des petites bonbonnes, mais ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est limite des ogives, quoi. C'est énorme en bouteille. Et c'est tous les jours. Nous, on a un bac de collecte qu'on a mis dans notre hall. À l'occasion, si quelqu'un veut venir vérifier, vous verrez l'importance du truc. Donc, quand elles rentrent pas, pour nous, c'est une victoire. Quand elles rentrent pas dans le four, pour nous, c'est une victoire.
Quand vous arrivez avant qu'elles brûlent, quoi.
Quand les éboueurs ont réussi à les mettre de côté, qui nous les ramènent, parce que nous, on essaye de lancer des messages pour essayer de les trier avant qu'elles arrivent.
Mais ça veut dire que maintenant, ça a la taille quasiment d'une bouteille, quoi.
Mais beaucoup plus gros qu'une bouteille. Ça fait autant de dégâts qu'une bouteille de gaz qui arrive une fois tous les je sais pas combien de temps. Là, c'est tous les jours. Ça a changé notre manière de travailler. On a dû s'équiper différemment. On est obligé de mettre des masques avec des visières, des combinaisons comme si on allait, comme si on était des mineurs, quoi.
Incroyable témoignage. Franchement, Mohamed, merci beaucoup. C'est un des aspects encore du protoxyde d'azote que nous n'avions pas forcément en tête. Merci, Mohamed, d'avoir témoigné ce matin. Je crois que c'est la première fois que je vous accueille et très heureuse d'avoir pu accueillir votre témoignage. Mohamed qui nous appelait donc de Créteil, il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Quel tarif pour l'électricité l'an prochain? Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Vous présidez la commission de régulation de l'énergie. C'est vous qui proposez au gouvernement les prix de l'électricité pour les tarifs réglementés. Mais alors attention, ça devrait augmenter jusqu'à 5% pour les PME. En revanche, vous allez peut-être nous le confirmer dans un instant, ça devrait rester à peu près OK pour les particuliers. Et vous qui nous appelez, qui nous écoutez, est-ce que vous avez du mal à payer vos factures d'électricité? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Vous êtes peut-être patron de PME, est-ce que vous redoutez ces augmentations? Vous nous appelez au 3216 pour interpeller Emmanuel Wargon. À tout de suite, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story. Quel tarif pour l'électricité l'an prochain? Bonjour Emmanuel Wargon, vous présidez la commission de régulation de l'énergie. C'est vous qui proposez au gouvernement les prix de l'électricité pour les tarifs réglementés, en fonction aussi de tout ce qui se joue dans l'année. Il y a deux vagues d'ajustement des prix pour les tarifs d'électricité réglementés pour les particuliers. Il y a février et il y a août. En août dernier, il n'y a pas eu de changement et en février, il y a même eu une baisse. Qu'est-ce qu'il va se jouer là, juste après Noël?
En fait, là, ce qu'on voit, c'est une grosse détente sur les prix de l'électricité sur les marchés de gros. Vous vous souvenez, on a eu une énorme crise en 2022-2023, des prix extrêmement élevés. beaucoup de protection de la part du gouvernement. 26 milliards d'euros, c'est énorme, qui ont permis de réduire les factures. Et en fait, l'État a pris en charge presque 40% des factures d'électricité, 30% des factures de gaz. Là, heureusement, on est sorti de tout ça, les prix baissent. Alors, c'est un peu tôt, Apolline, pour vous dire ce que ça donne en février, puisque, en fait, on fait des calculs quand on aura fini l'année, on fait les calculs en janvier, il nous faut encore novembre et décembre.
Est-ce qu'on sait déjà la tendance? C'est-à-dire, est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va rester stable? Ou est-ce que ça pourrait augmenter?
Alors, la tendance est plutôt rassurante. Donc, pour les particuliers, pour les ménages, hein, vous et moi, la tendance, c'est globalement stabilité, peut-être une augmentation légère du type inflation, mais pas plus que ça. Pour les entreprises, c'est plus compliqué à dire parce qu'en fait, les entreprises ont toutes des contrats qui sont plus différents. Et donc, certaines ont déjà bénéficié de la baisse des prix, d'autres pas encore. Mais là aussi, on voit globalement, à grosse maille, plutôt une stabilité. Donc, tout ça est assez encourageant.
Alors, un chiffre qui est avancé, qui est la question quand même pour les PME notamment, qui en effet ont des contrats qui sont négociés régulièrement, il pourrait y avoir une augmentation de 5%. Est-ce que ce chiffre vous paraît effectivement crédible?
Alors, moi, je connais pas ce chiffre. Je sais pas quelle est la source de ce chiffre. Je vous dis, c'est plus difficile pour les entreprises, même pour les PME, parce que ça dépend à quel moment elles ont souscrit leur contrat, est-ce que c'est du prix fixe, est-ce que c'est du prix variable. Mais globalement, on est dans la stabilité au sens large. Alors peut-être à 1 ou 2% près, bien sûr.
C'est le journal Les Échos qui avance ce chiffre de 5% qu'ils ont calculé. Il y a aussi certaines inquiétudes sur la réforme de la vente d'électricité d'EDF. Est-ce que là aussi le dispositif pourrait changer?
Alors en fait, on est vraiment dans une période de transition puisque on avait un système dans lequel EDF était avait comme obligation de vendre son électricité nucléaire à un prix assez bas. Cette obligation s'arrête au 1er janvier 2026, mais comme globalement nos prix sont bas, l'un dans l'autre finalement ça s'équilibre. Il faut voir qu'on est très compétitif en ce moment. On parlait de compétitivité avec Choose France hier. La France a une électricité qui est à 55 euros du mégawattheure sur le marché de gros, quand l'Allemagne est à 85, peu importe la valeur absolue, hein, l'important c'est la variation. On est 30 euros moins cher que l'Allemagne, donc on a vraiment actuellement un marché compétitif. C'est grâce au nucléaire qui est très présent, c'est aussi grâce aux énergies renouvelables. Et sur ce marché, juste pour finir, maintenant, c'est plus facile de comparer, de trouver son contrat. On a fait notre boulot de gendarme de l'énergie. On avait demandé aux fournisseurs d'être plus clairs. Ils nous ont rendu des comptes. Tout ça, c'est très encourageant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un comparateur qui fonctionne. Et avant de décider de prendre un contrat chez tel ou tel opérateur, on a la possibilité de savoir combien ça va nous coûter.
Exactement. Vous vous souvenez, en période de crise, personne n'y comprenait rien. Les fournisseurs se comportaient pas forcément très bien. Nous, on a fait un énorme boulot, notre métier de gendarme, pour leur dire maintenant, vous allez présenter les offres de façon claire. Vous allez faire une estimation annuelle de la facture. Vous allez expliquer aux gens comment les prix évoluent. Et ils sont tous rentrés dans nos lignes directrices. Tous ceux qui ont topé, on en a 3 sur 20 qui sont en conformité insuffisante. Donc, c'est quand même très encourageant. On a encore une petite dizaine de fournisseurs qui n'ont pas rejoint la démarche. Et on les incite vraiment à le faire. Et il faut qu'ils acceptent de présenter leurs offres de façon claire et lisible.
S'ils ne le font pas, il faut peut-être se dire que c'est louche.
Bah, en tout cas, un fournisseur qui accepte de jouer le jeu et qui accepte d'être transparent et qui accepte que nous-mêmes nous vérifions, ça vaut quand même quelque chose.
Emmanuel Vargon, vous qui présidez la commission de régulation de l'énergie, vous le savez aussi, le médiateur de l'énergie dit qu'il y a toujours 36% des Français qui ont du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Comment les aider?
Ben, c'est sûr que la précarité énergétique, c'est un sujet important. Aujourd'hui, en plus, c'est la journée internationale de lutte contre la précarité. Donc, on a des gens qui ont du mal. Alors, c'est d'abord un problème de pouvoir d'achat en général. Ensuite, c'est un problème plus global, l'isolation des logements, les travaux à faire. Moi, j'ai porté ma prime Rénov quand j'étais ministre. Maintenant, le fait de pouvoir aussi mieux choisir son contrat, d'avoir les prix les plus justes possibles et d'être capable de bouger sa consommation, donc de consommer quand l'électricité est un petit peu moins chère, ça détend aussi.
Donc n'hésitez pas à regarder sur le comparateur d'énergie, vous qui nous écoutez. Une dernière question, la multiplication de ceux qui produisent leur propre électricité, l'électricité fabriquée par soi-même et en autoconsommation, elle a été multipliée par 3 en 2 ans. C'est quoi? C'est les panneaux solaires?
Absolument, c'est les panneaux solaires chez soi. 650 000 foyers, ménages en France produisent leur électricité. Ça a été multiplié par 3 en 2 ans. C'est très très significatif. C'est aussi un comportement d'acteur, au service service non seulement de la transition écologique, mais de sa propre facture. C'est très encourageant.
La question bonus, cette évolution des heures creuses, heures pleines, avec des heures creuses au milieu de la journée, ça fonctionne franchement?
Ça commence.
Moi, j'ai regardé sur monedf.fr, je n'ai absolument rien trouvé. Je ne sais pas quand est-ce que je passe aux heures creuses dans la journée.
Alors, il y a 11 millions de foyers qui vont changer, Apolline, donc je ne peux pas vous dire quand vous changez, vous. Mais en fait, vous serez informé par votre fournisseur 6 mois avant. Pour savoir quelles sont vos heures creuses, vous avez ça sur votre facture ou sur votre compteur, si vous appuyez sur Linky, et ça vous donnera l'information. Et après, si vous devez changer, vous serez informé 6 mois avant par votre fournisseur.
Merci Emmanuelle Wargon, donc présidente de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie. Vous le dites, il y a une grosse détente, c'est votre expression, sur les prix de l'électricité. 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus Mathieu, des artistes britanniques qui interpellent leur gouvernement.
Dua Lipa, notamment, que vous entendez en cause, la flambée des prix des billets de concert. On en parle souvent. Il y a aussi Mark Knopfler, New Order, PJ Harvey ou encore Radiohead. La crème de la pop et du rock anglais qui demande une nouvelle réglementation sur la vente de billets de concert. Ils adressent une lettre ouverte au gouvernement. Ce qu'ils dénoncent, vous connaissez le phénomène, les places vendues en billetterie qui se retrouvent 5 fois plus chères au moins sur les sites de revente. En cause, les bots, des machines, des logiciels qui achètent des places par dizaines, par centaines et qui les revendent sur un marché où clairement c'est devenu le règne de la spéculation. C'est ainsi qu'on a vu des places pour Oasis partir à près de 4500 livres, plus de 5000 euros. The Cure, que vous entendez, mais encore Coldplay aussi, ces artistes estiment qu'il faudrait plafonner une marge maximum à 30% au-dessus du prix d'origine.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. C'est l'heure de la voix de gauche ce matin. Avec vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, l'UFC Que Choisir publie ce matin une étude sur la qualité de l'eau du robinet en France. Et RMC révèle ce matin ce chiffre inquiétant. Seuls 85% des réseaux d'eau sont véritablement conformes. C'est 10 points de moins qu'en 2021, donc ça veut dire que ça se dégrade. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Cécile ?
Il faut s'inquiéter parce que de quoi on parle ? On parle de l'eau. L'eau, c'est le composant majeur de notre corps. C'est quelque chose dont on meurt si on est privé et quelque chose qui est extrêmement précieux et qui est un bien commun parce que c'est l'eau qui est dans les nappes phréatiques, dans nos rivières. Donc ça devrait être géré de manière beaucoup plus responsable.
Jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était automatique, on avait de la bonne eau dans le robinet. L'eau devient donc un enjeu désormais en France.
L'eau est un enjeu, et un enjeu aussi du fait de la sécheresse. La baisse de l'eau est de 14% depuis 1990. Il y a 97% des départements, c'est-à-dire presque la totalité du territoire français, qui a vécu des restrictions d'eau ces dernières années. Donc on est dans un moment de tension et donc il faut qu'on soit extrêmement sensible à la préservation de notre source en eau et à sa qualité.
Sur cette question en particulier de l'aggravation de la pollution, on fait quoi ?
D'abord, on est conscient de ce qui se passe. On avait lancé un plan Ecophyto en 2008, au moment du Grenelle dans l'environnement, pour diviser par deux d'ici 2018. Ça a augmenté et depuis...
Pour diviser quoi ? La consommation ?
Pour diviser la consommation des pesticides par deux. Depuis 2018, c'est stable, c'est-à-dire que rien ne se passe. Donc on voit bien qu'il faut... aller un peu plus loin.
Relancer la machine.
Voilà. Et faire en sorte justement que la qualité de l'eau naturelle s'améliore dans notre pays.
Il faut appliquer le principe pollueur-payeur. C'est ce que recommande l'UFC Que Choisir. Vous disiez, juste avant de rentrer dans ce studio, qu'au fond, ce ne sont pas ceux qui consomment, enfin ce ne sont pas ceux qui polluent, qui paye, pourquoi, comment, qui pollue et qui consomme ?
On a un sujet, c'est que la majeure partie de la pollution qu'il faut traiter dans les eaux, d'ailleurs on le voit bien géographiquement, puisque c'est plutôt au nord de la France, ce sont des pesticides qui sont utilisés par les agriculteurs, pas tous les agriculteurs d'ailleurs, par certains agriculteurs et certains sans mesure. Et donc ce serait logique que ce soit eux qui financent le traitement de l'eau. Aujourd'hui c'est les consommateurs, puisque ce coût il est d'environ 1 milliard, il est payé par les consommateurs qui ne sont pas responsables. Pour n'importe quelle autre pollution, on trouverait ça quand même très bizarre. Et pour l'eau, on l'accepte, ce qui me semble absolument illogique. Donc, on doit agir.
Et puis, il y a une question, c'est les captages. Visiblement, là aussi, il y a une augmentation préoccupante des pollutions. Que faire ?
Oui, parce qu'avant de traiter l'eau, il faut la récupérer. Si on la récupère de très bonne qualité, on a moins besoin de la traiter. C'est mieux pour la santé et c'est moins coûteux. Donc, il faut améliorer la protection des captages, élargir le périmètre qui protège ces captables d'eau potable. On l'a vu, je le redis, hein, y compris avec les autres sources, parce que l'affaire Nestlé n'est pas terminée. Donc cette question de la protection des lieux de captage, notamment des nappes phréatiques, doit être vraiment une priorité.
Merci beaucoup Cécile. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Demain à votre place, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Il est 7h56. Dans un instant, le journal de 8h. Réunion à 10h ce matin à l'Elysée sur le narcotrafic après l'assassinat du frère d'un militant antidrogue à Marseille. L'omerta s'installe, l'angoisse s'installe aussi chez les militants antidrogue. Il faut taper les criminels au portefeuille. Voilà ce que la réunion à l'Elysée devrait acter. Puis la météo, c'est une semaine hivernale. Il fait froid. Et l'économie, Manu Le Chip vient de rentrer dans ce studio. Avec vous, on va parler d'une disparition, Manu.
Oui, je vous emmène sur la route des aventuriers des milliards perdus. Bercy a perdu entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes de TVA.
10 milliards
que
tombés dans un trou.
Sont-ils devenus ? On mène l'enquête.
A tout de suite, il est 7h57.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.